Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani wa Makaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halud Mandi.
Chienne Berry. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue au Forum de la presse de ce vendredi 28 octobre. Nous allons parler d'insécurité à Bamako et environ avec deux attaques, Sanankoroba où le poste de péage a été attaqué, il y aurait eu trois morts, et Bamako où une personne se fait agresser devant une banque de la place hier après-midi. L'OIM fait son rapport, plus de 300 Maliens ont perdu la vie dans la Méditerranée. Nous allons en parler également au menu l'inquiétude de certains médias français trois ans après l'assassinat de Justin Dupont et Claude Verne. Nos invités pour en parler sont Ramata Diaouré, elle est du journal 22 septembre, Boubacar Yalkouye du journal Le Pays, Paul Ben, il est journaliste indépendant, Ibrahim El Hadj Touré, il est Ibrahim Hamidou, pardon, Touré. Merci, Ibrahim Hamidou El Hadj Touré. Ah, d'accord, Hamidou El Hadj Touré, il est de Mali Média, c'est bien ça. Merci beaucoup, je suis Ousmane Diadé Touré pour vous présenter cette émission, elle est mise en onde par Gani Kanté.
Le Grand Dialogue.
Bienvenue au Forum de la presse. Trois morts, c'est le bilan de l'attaque survenue en début de semaine contre le poste de péage de Sanankoroba. Selon le général Salif Traoré, qui parle d'une attaque de banditisme, une enquête a été ouverte et de nouvelles dispositions ont été prises pour renforcer la sécurité autour de Bamako. Des témoins rapportent que les assaillants étaient cagoulés et scandaient des slogans djihadistes. Ramata Diaouré, vous êtes du journal 22 septembre. Quelle lecture faites-vous de cette attaque? Est-ce que on peut dire aujourd'hui que on peut imputer cette attaque aux extrémistes religieux?
Moi, je ne suis pas certain du tout. Parce que c'est depuis plus d'une année, Sanankoroba en allant à Wolesebougou et en allant vers Selengué, il y a toute une série d'attaques entièrement crapuleuses qui ont eu lieu. Des forêts qui sont fait attaquer à bord de car, de manière récurrente, des pharmacies qui ont été attaquées, des tentatives d'essayer de braquer une banque qui a échoué. Donc je ne suis pas certain que ça, il y a une espèce de psychose collective qui fait que tout le monde pense avoir entendu Allah Akbar quelque part. Mais Allah Akbar, quelqu'un qui a reçu une balle peut le dire lui aussi. Et moi je doute fort que l'attaque du poste de péage de Sanankoroba soit liée à un islamisme quelconque. Mais je pense plutôt que c'est crapuleux.
Est-ce qu'il n'y a pas une volonté aujourd'hui de certains bandits, vu cette terreur justement face aux extrémistes religieux, d'exploiter cette terreur en attaquant les gens?
Ça c'est possible, ça peut être une mise... Ça peut être un jeu. Ça peut être un jeu de rôle de leur part. Mais honnêtement, je ne pense pas que ce soit une attaque djihadiste. Je ne pense pas que la manière de faire puisse être imputée aux djihadistes.
Boubacar Yalkouye, vous êtes donc du journal Le Pays. Quelle est votre lecture de cette situation? Trois morts quand même, un poste de péage à peine 35 km de Bamako. Oui,
la situation, elle est quand même alarmante, comme vous l'avez si bien dit, à quelques kilomètres de la capitale malienne. Et d'ailleurs, quand on essaie de voir l'opération de ces gens, certes, ils ont quand même eu des slogans comme Allah Akbar, vraiment, qui est aujourd'hui collé quand même au djihadisme. Mais moi, je pense vraiment que je les considère comme des bandits en tant que tels. Parce que compte tenu de la situation, ils savent que si vraiment ils utilisent ces slogans-là, ça vraiment, ça installe quand même la psychose quand même au niveau de la population. Et maintenant, ils profitent également. Parce qu'une fois qu'on dit Allah Akbar, seulement c'est fini. Les gens vraiment se laissent emporter par la peur et puis tout le monde se cherche finalement. Moi, je pense que c'est un peu ça. Ce sont des bandits, mais je ne les considère pas comme djihadistes.
Merci. Paul Ben, est-ce qu'on en sait un peu plus déjà à votre niveau? Est-ce qu'on sait ce qui s'est passé avec certitude? Il y a quand même il y a des gardes armés normalement au poste de péage.
Vous avez dit normalement, hein? Normalement. Hier à Bamako,
on va revenir, c'est l'un des sujets.
Oui, bien sûr, oui.
Ouais,
parce que vous avez évoqué ça dans votre chapeau.
Dans le chapeau,
voilà, donc je crois que, comme mes deux confrères l'ont dit, je crois qu'il faut vraiment qu'on soit vigilant. Moi, je ne comprends pas que le poste de péage, c'est une source d'argent. C'est, vous savez, les mannes financières n'attirent pas que les bandits à col blanc, mais aussi les bandits, et surtout les bandits armés. Et je crois que un point stratégique de ce genre doit être gardé 24 heures sur 24. On doit faire très, très attention. Et quand on dit que les gens ont crié Allah Akbar, moi je sais du nord que toutes les personnes qui veulent attaquer, ils disent que c'est un cri de guerre. C'est pas que c'était des extrémistes, c'est des bandits. Ils peuvent le dire. Et comme Ramat l'a dit, même celui qui reçoit une balle peut le dire. Donc moi vraiment, franchement, pour le moment, comme vous avez dit, l'enquête est en cours. Il y a tellement d'enquêtes en cours dans ce pays. Espérons que on va débusquer ceux qui ont fait cet acte capuleux.
Hamidou Touré de Mali Média, dites-moi, quelle est votre lecture de cette situation? 35 kilomètres de Bamako.
Je m'incline devant la mémoire de ces disparus et je compatis à la douleur des parents et de toute la population malienne qui souffre vraiment de cette insécurité qui est en train de s'installer. Au fait, parler de djihadistes, moi c'est un mot que je auquel je ne crois même pas. Il n'y a pas de djihadistes au Mali, il y a encore moins de djihadistes, encore moins d'extrémistes. Et tout ce que je sais, c'est qu'il y a vraiment un grand banditisme qui est en train de s'installer. Ça, c'est ma lecture a priori de ce acte crapuleux.
Ce n'est plus justement le nord du pays qui est ciblé par des bandits. Est-ce qu'aujourd'hui, on est la cible d'attaque de toutes parts, de bandits cherchant justement...
De tous les temps, ce banditisme a toujours existé. Au nord ou au sud, au centre ou à l'est, je pense que le banditisme a toujours existé. Mais ça prend de l'ampleur face vraiment au dispositif sécuritaire. Du général de brigade Salif Traoré, je pense que les bandits sont en train d'adopter une stratégie encore plus forte. Et voilà ce à quoi on est exposé ces deux jours.
Ramata Diaoré, justement, ce sont de nouveaux procédés qu'on ne connaissait pas au Mali.
Ce sont de nouveaux procédés qu'on ne connaissait pas, en fait, que peut-être beaucoup ne connaissaient pas. Bamako, cette capitale, est quand même l'objet depuis, je dirais, facilement une dizaine d'années, de voir la main armée, ne serait-ce que pour enlever des motos. On l'a vu. Actuellement, nous sommes passés à une échelle où on enlève même des voitures. Mais ce qui est, à mon avis, le point principal...
Qu'est-ce qui serait justement à l'origine de cette
évolution ? Le Mali a été incapable de lutter contre la prolifération des armes. Les armes sont partout. Tout le monde est armé. Les armes ne coûtent rien. Avec ce qui s'est passé au nord, ça coûte encore moins cher que ce que ça coûtait avant. Donc il est très facile de s'armer. Donc il est très facile pour un bandit de s'armer. Chez nous, on nous a dit pendant longtemps qu'on allait commencer à prendre en compte les fabricants traditionnels d'armes locales. Je n'ai pas encore vu qu'on ait sévi contre qui que ce soit. Je vois des armureries que je connais, une de l'autre côté du fleuve, une à Badlabou d'ailleurs, et une en ville qui n'ont jamais été fermées. Il me semble que de ce que l'on m'a dit, et c'est de 7 500 à 10 000 francs CFA, on peut avoir un pistolet traditionnel qui marche avec des cartouches de fusil de chasse. On sait qu'au nord, les armes circulent dans tous les sens. Nous avons ici des programmes de lutte contre la prolifération des armes légères, mais je vous dis que jusqu'à présent, c'est une faillite. De plus en plus d'armes circulent dans ce pays, et tant qu'on ne met pas un frein à ça, il est clair que le banditisme à main armée ne peut que proliférer.
Boubacar Yalkouye du pays, est-ce que vous pensez justement que ces armureries à Bamako, qui détiennent, je pense, des licences pour justement la fabrication ou l'importation d'armes, non, qu'ils détiennent, je pense, après enquête, qu'ils détiennent, est-ce que vous pensez qu'ils sont aussi responsables de cette insécurité, où il y a d'autres facteurs qui engrangeraient cette insécurité-là dans Bamako et environnant?
Oui, moi je pense qu'ils ont quand même une part de responsabilité là-dedans, mais du moment où l'État les autorise, donc il faut aller, la responsabilité, il faut la situer un peu plus haut, puisque l'État, au fait, quand il donne quand même des autorisations de ce genre, il faut également aussi tenir compte de certains facteurs, faire en sorte que vraiment que les retombées ne soient pas vraiment négatives et inquiétantes jusqu'à un certain niveau. Mais par rapport à cette situation, moi je pense que aujourd'hui, ceux qui s'aventurent dans ce genre de situation, dans ces actes d'attaque par-ci, par-là, ils tiennent aussi également compte un peu de la vision quand même des Maliens par rapport à la situation qui devient de plus en plus compliquée chez nous ici. Et en ce sens que vraiment aujourd'hui, la gouvernance, vraiment le jugement que le peuple malien fait de la gouvernance, c'est de l'amertume. Et tellement que les gens sont dessus...
Sur quoi vous basez-vous? Est-ce qu'il y a des statistiques ou je ne sais pas?
Oui, au fait, c'est des sondages. C'est des sondages que nous avons quand même eu à faire par-ci, par-là. Et ça fait que vraiment, les gens ne parlent même plus en bien. chacun, tout le monde est pessimiste par rapport à la situation. Et également, nous avons vu également, certains vont jusqu'à dire que vraiment les récentes opérations de Madame le gouverneur du district de Bamako ont fait qu'il y a certains qui ont vraiment perdu leur boulot, qui se sont finalement aventurés dans cette situation-là. D'autres le faisaient avant, puisqu'on a vu qu'il y a même eu des témoignages au moment de l'opération, de la première opération. Il y a certains qui ont eu à témoigner que vraiment, eux, ils étaient des bandits. Ils volaient. Et maintenant, ils ont vraiment eu de quoi vraiment subvenir aux besoins. Et que si Madame le gouverneur vient quand même à mettre un fin quand même à leur activité, ils sont contraints de retourner quand même à l'ancienne pratique. Ils l'ont dit clairement.
Pour même, ça n'a pas vraiment de sens. Il y a plusieurs autres activités. Alors, est-ce qu'on est obligé d'aller dans l'illégalité? On va pas revenir sur ce qu'Aminkan a fait. Est-ce que vous pensez concrètement que ce qu'Aminkan a fait peut être un facteur grandissant de l'insécurité?
Non, pas du tout. L'opération vise à assainir la ville de Bamako. Maintenant, les dégâts collatéraux, si je peux les appeler ainsi, parce que les mairies qui installent ces gens savent très bien.
Entre parenthèses, les mairies qui ont dit que 70 à 80% des gens installés ne sont pas déclarés.
Ça, c'est faux. Mais je vais vous donner un exemple. Nous sommes aujourd'hui le vendredi. Il y a une semaine, je suis parti acheter des sandales. Je suis un vendeur. Mmh. Il n'est pas ambulant, il est installé, mais de façon anarchique. Mmh. Une dame de la mairie est venue et elle lui a demandé de payer
la perception journalière.
Voilà. Et moi, j'ai demandé à la dame de la mairie, je dis, mais quand on va déguerpir ce monsieur, est-ce que vous serez là pour lui venir en aide en témoignant que vous percevez quand même de l'argent avec cette personne?
Pour revenir à la question, c'est pour vous dire que
cette opération ne devait pas pousser les gens à passer au banditisme. Mm-hmm. Et ce que je voudrais dire pour finir, c'est qu'il faut que l'État prenne ses responsabilités, qu'il dote à problème particulier, mesures particulières. Il faut qu'ils dotent les forces armées et de sécurité des moyens pour lutter contre ce banditisme. Parce que moi, j'ai assisté à une scène où des policiers qui voient quelqu'un qui essaye de braquer une personne ne peuvent pas dégainer leur arme, qui n'a pas de cartouche. Ça, c'est pas qu'on m'a raconté, qui n'a pas de cartouche pour essayer de venir en aide à la personne qui a un pistolet artisanal et qui peut blesser à tout moment toute personne. Ça, c'est des choses qui sont impensables.
Mais il n'a pas de cartouche.
Justement, est-ce que Hamidou Touré de Mali Media, est-ce que c'est où il y a aussi un manque de moyens des forces de sécurité, par exemple?
Avant d'arriver à ce manque de moyens, je pense que je vais rebondir sur la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères. La Commission nationale de lutte contre, dont je suis un consultant, et la dernière fois je vous l'ai dit, je suis en train de faire une étude sur la prolifération des armes légères au niveau de Gao et Tombouctou. Et je sais aussi que la Comnat est en train, ou bien a déjà recensé tous les fabricants locaux d'armes traditionnelles, et on est en train d'essayer de les réformer. Contrairement à mon cousin Yalkoui, je pense déjà qu'on est en train de faire en sorte que ces artisans puissent faire,
réinsérer dans d'autres domaines
pour qu'ils arrêtent la fabrication de ces armes artisanales. Et lors de notre dernière session de formation, il y a un commandant de l'armée qui a témoigné que ces gens peuvent faire une arme identique à celle faite en Italie. Bon, je pense que l'État...
Mais est-ce que le gros des armes, justement, qui vient, que les bandits utilisent ou que, justement, ces extrémistes religieux utilisent, ne vient pas de ces fabricants d'armes?
Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ces armes ne viennent pas ou bien ne proviennent pas d'une fabrication artisanale. Ou bien ces armes... C'est-à-dire qu'il y a un système qui s'est installé et je pense qu'il y a une part de responsabilité de toute la chaîne. Et à cet effet, je pense aussi, à mesure appropriée,
solution appropriée. Et je pense qu'il faut prendre d'autres dispositions aujourd'hui. D'autres dispositions s'imposent dans la lutte contre l'insécurité grandissante. Mmh, voilà merci. Ce que moi je pense.
Merci. Quelques secondes de pause, nous reviendrons pour la suite de cette émission.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Merci de rester connecté au Studio Tamani. Vous suivez le forum de la presse. On parle actuellement d'insécurité à Bamako et environnant Bamako, où hier seulement des hommes armés ont tiré sur un civil devant une banque de la place. Ils auraient emporté une importante somme d'argent. Une vidéo d'ailleurs de l'attaque circule, Ramata Diaouré, du 22 septembre. Alors, ils avaient l'air très sereins lors de l'attaque.
Ils avaient l'air très sereins lors de l'attaque parce que, excusez-moi, si j'étais un bandit à Bamako aujourd'hui, j'aurais pas très très peur de nos forces de sécurité. Il faut dire les choses comme elles sont. Jusqu'à nouvel ordre, et à chaque fois qu'on a entendu parler d'attaques du genre, y compris dans nos quartiers, quand on agresse quelqu'un à 4h du matin, un boucher à 4h du matin pour le déposer de sa Jakarta, ou quelqu'un de sa recette, on ne les voit pas. Et malheureusement, on entend souvent dire que ceux qui sont même présents au moment de l'attaque sont les premiers à prendre leurs armes à leur cou. Et ça, c'est quand même un petit peu compliqué. Il y a une formation à faire quand monsieur, mon voisin d'en face, mon cousin, pense que les gens avec un pistolet sans cartouche peut dissuader quelqu'un qui est armé. Moi j'y veux bien.
Dans ce cas de figure où ils avaient l'air très sereins, ça allait toutefois difficile.
La lutte contre l'insécurité commence par la dissuasion. Et c'est très déplorable lorsque on voit même les vigiles. Au Mali, ici, un vigile qui est là, il s'arrête. Il n'a aucune mesure dissuasive. Ni une matraque, ni un sifflet, encore moins un couteau. Et il porte des tapettes. Un vigile. Et un policier.
Dites-moi, dans le cas de l'attaque d'hier, par exemple, où ils avaient des armes de guerre, là, ce ne sont pas du tout. Là, on est sûr que ça ne vient pas des fabricants locaux.
L'attaque d'hier, moi, je pense que le plus souvent, il y a laxisme dans le service ou bien dans la prestation de nos forces de sécurité, le plus souvent. Hein. Mais je loue quand même les gros efforts déployés par le ministère de la Sécurité et comment dire, au niveau de la défense.
Je voudrais rebondir un peu sur l'intervention de mon voisin. Moi qui suis dans les zones où les armes sont devenues comme le téléphone portable que vous avez, on les utilise. Le deuxième oreiller, comme on le dit là-bas, c'est l'arme. Je vais vous dire quelque chose. Quand vous êtes en face de quelqu'un qui a une arme chargée, vous n'avez pas d'autre chose que, c'est-à-dire, riposter ou vraiment vous êtes mort. La dissuasion, vous ne pouvez pas la faire avec le sifflet ou le bâton.
Paul Ben, dans le cas de la banque, on a accusé les policiers qui étaient à 200 mètres de la circulation routière. On n'est même pas
policier, le policier armes. A un Beretta, avec un chargeur. Excusez-moi.
J'arrive. Et d'autre part, on a aussi accusé les gardes de la banque qui sont responsables de la sécurité de la banque, mais pas de ce qui se passe dehors, par exemple.
Voilà, je me suis renseigné exactement. L'endroit où s'est passée l'attaque n'est pas couvert par la sécurité armée de la banque. Vous comprenez? Maintenant, on dit que les policiers ont pris leurs jambes à leur cou. Un policier qui a un Beretta avec 14 balles, et Dieu seul sait si dans le chargeur il y a 14 balles, et quelqu'un qui a une Kalachnikov, dont le chargeur contient 30 balles, il n'y a pas match. Le Beretta, la balle, elle n'est pas assez puissante que celle de la Kalach qui fait 300 mètres par seconde. Mais soit vous fuyez, soit vous vous faites tuer. Et le policier qui est au rond-point n'est pas chargé de la sécurité de la banque.
C'est la routière.
C'est la banque. Je crois qu'ils vont prendre des mesures. Je crois que moi, j'ai cru comprendre, ou bien je pensais que tous les quatre côtés de la banque sont sécurisés par des gardes armés. Mais ce n'est pas le cas. Il faut que ça soit le cas. Parce qu'une banque, ce n'est pas votre coffre-fort à la maison. C'est des milliards qui sont brassés là-bas. Et les gens, quand ils viennent attaquer, mais ils font un travail profond.
Dans ce cas de figure, justement,
ils ont des complices.
Dehors, le braquage a été quasiment.
Mais ils ont des complices. Ils ont déjà des complices qui sont là, peut-être
comment
un jour, deux jours à l'avance.
Est-ce que ça pose justement le problème de. Est-ce qu'on est sécurisé aujourd'hui quand on. Boubacar Yalkoué. Yalkoué n'a pas dit un mot encore. Boubacar Yalkoué, quelles sont les théories qu'il y a aujourd'hui? Parce qu'il semblerait que la banque aurait fait une annonce pour pour dire que le monsieur n'est pas venu faire un retrait, il n'est non plus pas venu faire un dépôt. Alors, ce serait quoi les théories à ce moment-là?
Bon, au fait, c'est quand même installer davantage quand même la confusion par rapport à la situation. Et moi, je pense...
Le aussi... monsieur qui, on le rappelle, a été blessé ce jour à Gabriel Touré. Ah, on a vu les photos et les vidéos sur le net.
Effectivement. Au fait, la première version quand même qui a été divulguée par rapport à cette situation, moi je pense que la responsabilité, elle est au moins à trois niveaux. La première, je me dis que c'est une négligence de la part quand même de comment on appelle ça, de la banque concernée en tant que telle. Puisque moi je ne peux pas comprendre un siège comme ça, là où on a investi des milliards, on ne prend pas des dispositifs sécuritaires nécessaires par rapport quand même aux clients en tant que tel.
Ça s'est passé dehors,
oui,
dans
même
le
si c'est au parking. On a dit au parking. En fait, le parking fait partie de la banque aussi. Le parking fait partie de la banque. Et une banque aussi de référence comme EcoBank aujourd'hui. Et quand on attaque un client au niveau du parking, ça veut dire que les clients quand même ne sont pas à l'abri.
On peut mettre une bombe dans un véhicule arrêté.
Ah oui, mais ça veut dire qu'ils ne sont pas à l'abri.
Pour qui connaît le Mali justement, qui, moi, je vois beaucoup de Maliens qui, à moto, amènent des sommes très, très importantes à la banque, sans aucune forme de mesure de sécurité, puisque jusqu'ici, on connaissait quand même un climat assez paisible.
Un des grands problèmes qu'il y a quand même aussi, c'est qu'il faut qu'on détermine qui assure la sécurité des banques au Mali. C'est une question qui se pose. Moi, je sais que jusqu'à plus ample informé, jusqu'à ce qu'il y ait un changement de loi, il n'y a pas au Mali de société de vigile agréée à faire porter des armes à son personnel. Ça, c'est un. Il y en a peut-être une.
À part escorte.
Voilà. Il y en a peut-être une, c'est tout. Et c'est très particulier. Il se trouve qu'au niveau des banques de la place, à ce que je sache, ce sont souvent les éléments de la garde nationale qui assurent la sécurité de ces banques-là.
Et à l'intérieur, c'est ce qu'on nous dit.
Voilà.
Ce qu'on nous dit hier, c'est à l'intérieur, pas à l'extérieur.
Voilà. Bon, mais maintenant, qu'est-ce qu'on appelle l'extérieur et l'intérieur? Ça, c'est un débat. Mais la deuxième chose, c'est comment est-ce que vous pouvez organiser une riposte efficace à des actes comme celui d'hier qui manifestement ont été parfaitement réfléchis et mis en œuvre. Parce que je ne puis pas comprendre que quelqu'un vient, on me dit que la personne était à moto, rentre dans une banque, jusqu'à présent informé aussi, je ne suis pas convaincu par le fait que ce monsieur n'était pas allé faire un retrait. Parce que sinon, je ne vois aucune raison, et il s'est fait attaquer et manifestement, il y a de l'argent qui est parti quand même.
Et on lui a tiré dessus.
Donc il y a quand même des témoins qui ont dit que le monsieur s'agrippait à son sac et on l'a enlevé par la force, on lui a même tiré dessus pour se faire. Donc il y avait en tout cas de l'argent dans ça. Venait-il déposer, sortait-il de la banque, ça c'est un autre débat. Mais manifestement, il y a eu des informations données sur l'action que ce monsieur devait faire ce jour-là, hein, et l'opération que ce monsieur devait faire ce jour-là à des personnes qui sont venues l'attendre pour récupérer cet argent-là.
Bien sûr.
De mon point de vue, le scénario, c'est ça. Maintenant, quelles sont ces personnes? Est-ce que c'est à l'interne de son travail à lui, de son service à lui, qu'il y a eu une complicité? Est-ce que c'est des gens qui suivent les gens à l'intérieur de la banque? Parce qu'on sait que ça s'est fait. Les gens qui font déposer de leur argent dans une banque, hier ça a été fait de manière très sanglante, mais il y a plein de gens qui sont fait déposer de leur argent après avoir fait un retrait, un gros retrait à la banque, et devant plusieurs banques de Bamako. Donc ce n'est pas seulement ce type de cas. Donc clairement, il y a on a un problème de vidéosurveillance par rapport à ce qu'on nous dit. On nous a dit qu'il y a des caméras partout dans Bamako. Moi j'attends de voir les caméras en dehors du film du téléphone portable de quelqu'un, j'attends de voir les bandes de vidéosurveillance de cette zone-là, officielle, nationale, autorisée, qu'on voit comment l'attaque s'est passée.
Merci. Amidou Touré, est-ce qu'on doit s'inquiéter maintenant quand on va faire des retraits, justement?
Oui,
alors qu'il y a beaucoup de transferts d'argent dans Bamako ne sont pas sécurisés. Les Soninkés ont leur histoire de transfert d'argent.
Je ne me réfère pas seulement à l'attaque d'hier pour dire qu'il y a de l'inquiétude. Il y a deux mois, une jeune dame a été tuée, dépouillée de sa moto vers Sirakoro. Et je peux vous citer une dizaine d'exemples. C'est-à-dire, il y a de quoi s'inquiéter. Mais seulement, je dis qu'il n'y a pas de sécurité zéro.
D'insécurité zéro.
De sécurité zéro. Mmh. Moi, j'ai eu la chance de travailler à la SGS, à la Société Générale Gabonaise de Sécurité. Mmh. J'ai eu la chance de travailler à Vig Assistance et j'étais commissaire de police. J'ai eu à mener des réponses face à des attaques avec des éléments. Je sais que le plus souvent, celui qui est hors de ce champ-là, se fait beaucoup d'idées. Mais lorsqu'il est sur le champ, il saura que ce n'est pas facile. Je rejoins Ben, quand on est face à une arme, il y a beaucoup de choses qu'on n'est pas... On n'est même pas censé réfléchir. C'est-à-dire que c'est un réflexe qui vient. Mais l'inquiétude est grandissante. Je loue tout ce que nos forces armées de sécurité sont en train de faire. Mais j'ai dit qu'il faut être très vigilant. Et ce qui vient de se passer au niveau de la banque, moi je pense qu'une banque de l'envergure de Ecobank, une banque panafricaine, doit avoir une vidéosurveillance qui cerne quand même tous les côtés de cette banque-là. Ça, c'est le premier. Deuxièmement, parlant même des responsabilités, moi je pense qu'aujourd'hui, que la société sache une chose. Que la sécurité n'est pas du seul domaine des policiers. Il faut que il faut conscientiser vraiment la police. Hein. Mm-hmm. Un policier qui a un carrefour, quelque chose se passe à 50 mètres de lui, il dit que ce n'est pas dans son air de tout. C'est vrai. En sécurité, on dit il y a ce qu'on appelle le divertissement. Mm-hmm. On peut divertir pour faire un forfait. Mais qu'on se dise que on est agent de sécurité avant tout. Et qu'on porte une tenue pour assurer la sécurité. Pas pour assurer une sécurité particulière, mais pour assurer la sécurité. Mais au-delà de tout ça, que les communautés, ou bien que les populations, ou bien le citoyen, se mettent en tête qu'il est au centre aussi de la sécurité. Il faut que le citoyen agisse aussi. Il faut qu'il informe. Il faut que le citoyen dénonce.
Oui, M. Touré, faudrait-il aussi que l'autorité... habilité pour cela fasse savoir aux citoyens que vous aussi vous devez être impliqué dans la sécurité. Parce que quand un policier me dit par exemple que vous n'allez pas m'expliquer mon boulot,
je vous suggère monsieur, ce que vous dites est très intéressant, monsieur, madame, ce que vous dites est très intéressant, mais moi je vous suggère d'aller vers le second thème, sinon le temps finira par nous attraper. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, du 1er juillet au 30 septembre 2016, plus de 8000 migrants auraient transité par Gao et Benena. 97% de ces migrants étaient des hommes et 6% des mineurs. 40% de ces migrants sont des ressortissants de la Guinée, 22% originaires du Mali, 15% de Sénégalais, 12% de Gambiens, 3% d'Ivoiriens. L'Afrique subsaharienne est la région ayant enregistré un taux très élevé de fatalité dans la Méditerranée. En 2015, la région a enregistré 1218 décès, dont 376 au Mali, Ramata Diaoré. Ces chiffres font froid dans l'eau quand même.
Ils font froid dans l'eau et ils font encore plus froid dans l'eau quand on sait que quelque part, ça aussi, c'est lié à toutes ces facilités de fraude documentaire. À tout. C'est tellement facile d'avoir ici des documents, une carte d'identité, parce qu'il suffit de se faire, de bachicher quelqu'un dans une mairie pour avoir un acte de naissance. Je me demande, la carte NINA, j'espère que ça devient plus efficace, mais je ne sais pas.
Mais le Mali est en même temps une zone de départ, mais aussi une zone de transit.
Nous sommes une zone de transit. Et les chiffres montrent d'ailleurs que nous sommes principalement une zone de transit. Mmh. Et nous sommes principalement une zone de transit depuis longtemps parce que justement, beaucoup de gens peuvent pas quitter leur pays respectif, arriver au Mali, se faire établir des documents maliens avant de quitter ce pays-là et d'aller maintenant chercher leur chance, que ce soit sur les camions dans le désert ou en Méditerranée. Et ce problème est récurrent depuis longtemps. Malheureusement, on n'y met pas un frein. Quand vous donnez les chiffres, c'est pas, les Maliens ne sont pas le plus grand nombre. Ils ne sont pas le plus grand nombre. Et l'immigration même des Maliens a changé de visage. Le même rapport de l'OIM et puis le travail de Ocha montre que, par exemple, il y a de plus en plus de femmes. Pendant longtemps, les femmes ne migraient que pour rejoindre leur mari. Mais maintenant, les femmes font des migrations économiques au même titre que les hommes.
Il y a des mineurs.
Et les mineurs, il y en a beaucoup. Mais moi, je me demande, quand vous voyez comme moi les images de gens sur des bateaux, qui n'en sont pas, avec des enfants dans les mains ou des dames en grossesse, moi, je n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'une responsabilité de parent, bien comprise, peut permettre à quelqu'un d'embarquer avec toute sa famille. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui va apitoyer les gens, mais c'est quelque chose qui va mettre... C'est-à-dire qu'au lieu de perdre une seule personne, vous perdez toute la famille en même temps. Quoi. Il y a un naufrage et puis on n'en parle plus. Et malheureusement, les gens continuent à faire ça. Et malheureusement, des gens continuent à s'enrichir par rapport à ça. Parce que ça, c'est des milliards. On parle de la drogue, on parle des armes, le trafic d'êtres humains. Parce que là, ils sont dans des conditions, ils sont victimes de trafic d'êtres humains. Ces gens-là remplissent les poches d'un certain nombre de personnes, mais qui gagnent des milliards. Depuis le petit qui fait des papiers à celui qui vous fait embarquer sur un bateau, qui va vous tuer. C'est une économie souterraine, parallèle, liée au trafic d'êtres humains qui remporte un maximum d'argent. Et on a l'impression que peu est fait pour contrer les passeurs. Autant celui qui arrive peut-être par exemple en Europe ou ailleurs aujourd'hui aura plus de problèmes à être confronté à la police des frontières parce qu'il est là comme illégal et tout ça que quelqu'un qui est passeur aujourd'hui. Okay. Et ça, c'est très compliqué.
Effectivement, Paul Ben, je vous donne la parole après juste quelques secondes de pause.
Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Vous suivez le forum de la presse du studio Tamani. Nous parlons là d'immigration. Paul Ben souhaitait réagir, mais laissez-moi vous poser juste cette question. Est-ce que vous pensez qu'il faut que les départs soient diminués ou même arrêtés tout court?
On ne peut pas. Ça, on ne peut pas. Comme Ramat l'a dit, c'est une économie souterraine. J'ai eu la chance, j'ai fait des dizaines de reportages sur ce phénomène. Et l'année dernière, j'ai eu la chance d'être à Agadez. Vous savez, ce qui se passe à Agadez est inimaginable. Nous sommes vendredi aujourd'hui. À partir de vendredi jusqu'à mardi prochain, c'est des milliards qui sont brassés à Agadez par rapport à l'immigration, les gens qui viennent.
Est-ce qu'il faut justement lutter contre ces réseaux de passeurs-là? Est-ce que c'est une des solutions?
Les réseaux de passeurs, ceux qui sont censés lutter contre ces réseaux de passeurs s'enrichissent eux-mêmes. Moi, j'ai fait la route. J'ai fait Bamako, Dirkou. Ça, c'est à la frontière avec la Libye. Par route, pas par avion, par route. Bamako, Bobo, Ouaga, Niamey, Agadez, Arlit, Dirkou. Par route. Pour suivre un peu ce... Et partout où vous passez, c'est les policiers, c'est les gendarmes qui s'enrichissent, c'est de l'argent.
Donc il y a une véritable économie.
Économie, bien sûr. Ça sera très difficile pour stopper, pour lutter.
D'accord.
Très difficile.
D'accord. Alors, Boubacar Yelkouye, justement, du journal Le Pays, on a vu que l'Union européenne parle d'aide au développement dans nos pays, mais conditionnée, justement, à Bruxelles, ils l'ont dit il y a quelques jours, conditionnée au flux de migrants, justement, qui quitteraient les pays là. Donc, c'est-à-dire que s'il y a beaucoup de migrants qui quittent le Mali recevra moins d'aide. Est-ce que ça vous paraît sensé?
Oui, au fait, moi, je suis...
Comme méthode de lutte.
Je partage quand même la méthode, à mon avis. Elle est quand même salutaire du moment où nous voyons que chez nous, même s'il y a quand même une politique d'offre d'emploi...
Mais ce n'est pas le gouvernement qui envoie ces gens-là. Alors pourquoi le gouvernement devrait payer par avoir moins d'aide justement des pays de l'Union européenne parce qu'il y a plus de migrants qui quittent un pays?
Oui, au fait, même si ce n'est pas le gouvernement qui envoie, mais le gouvernement a également une part de responsabilité. La plupart de ceux qui partent, parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas un lendemain meilleur chez eux. Parce qu'ils ne voient pas de moyens comment vraiment se faire à une économie pour pouvoir quand même subvenir à certains besoins. Et quand on regarde même vers la région de Kaïbon, qui est une zone d'excellence par rapport à la migration chez nous ici, les gens partent puisque aujourd'hui c'est devenu une question même d'émulation. Une émulation peut-être qu'on peut considérer comme positive puisque les premiers qui sont partis, en réalité, on a vu l'impact aussi positif dans leur zone. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les villages aussi se font quand même... c'est devenu une concurrence. Vous allez voir que dans un village, les enfants qui sont quand même à l'étranger sont parvenus quand même à faire de grandes réalisations. Et l'autre village qui est à côté, les enfants qui sont là-bas, les parents même au moins poussent les enfants à aller vers ça. Parce qu'ils vont dire, voilà, ceux-ci ne se sont pas dit, bon voilà, assoyons-nous, attendons l'aide de l'État en tant que tel. Mais ils sont partis, ils ont subi tellement de contraintes, tellement de difficultés, mais malgré tout ça, ils ont quand même pu faire des réalisations dans la zone. Et aujourd'hui, moi, je pense que l'État quand même doit essayer de réfléchir un peu à ça, essayer de voir comment mettre en place une politique idoine pour pouvoir vraiment retenir les gens au niveau quand même des pays respectifs.
Merci Hamidou Touré. Dites-moi, on a parlé parfois de l'aide que ces migrants apportent justement dans certains de nos pays qui est encore plus substantielle que l'aide au développement que l'Europe donnerait. Alors est-ce que à ce moment-là, nos gouvernements peuvent se passer de cet apport des migrants-là?
Non.
Si cet apport est supérieur à l'aide que nous donnons.
De l'angle sous lequel on le voit, parce que l'aide que ces derniers apportent, je pense que c'est à leur famille respective, pas à l'État ni au produit intérieur brut. Et ça, c'est le premier aspect. Le second aspect est que...
C'est de l'aide pour le mieux vivre des gens, déjà, des citoyens.
Oui, le mieux vivre des gens, mais...
Qui est un devoir égalien de l'État, apparemment.
Mais il y a une chose qui est là. Dès lors où les États signent certaines conventions, comme la libre circulation des personnes et des biens, pour répondre sur le départ de ces gens, ou bien les pays de transit ou les pays de départ, je dirais que c'est parce qu'il y a ces mesures de libre circulation des pays, dans les pays de la zone UMOA ou bien de la zone CEDEAO, que souvent il y a ce flux migratoire de transit à travers nos pays respectifs ou bien d'un pays à travers le Mali. À ce point. Deuxièmement, comme le frère Ben, j'ai eu aussi la chance de traverser l'océan des trois côtés, du Lagos à Bata, de Lagos à Libreville et de Tripoli à Malte. J'ai eu la chance de faire ces trois trajets et je m'en suis bien sorti, Dieu merci. Mais je vous dis
Est-ce que c'était de l'immigration clandestine?
Ben oui, c'était de l'immigration clandestine. Je le reconnais. J'ai failli même être un passeur parce que j'étais parmi des personnes qui quand même étaient des borgnes alors que j'avais les deux yeux ouverts. Donc, mais malheureusement, fort heureusement, disons, j'ai été sauvé
un
de
changement
cette,
de carrière.
Voilà.
D'accord. Paul Ben, il nous reste pas beaucoup de temps. On va aller vers le dernier thème.
Je voulais rebondir sur ce point-là. Parce que
si ces pays
vraiment se bornent à dire qu'ils vont conditionner leur aide au nombre de départs, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui transitent par le Mali qui se font des fausses pièces maliennes et qui avec ces pièces-là te disent des Maliens parce qu'il y a quand même un dialecte commun aux pays voisins et le Mali. Donc vous voyez ce que ça peut faire pour un tort, c'est injuste.
Et puis je voulais aussi dire que on a eu une première expérience qui a été vraiment un fiasco total, le CIGEM. Je ne sais pas si vous savez. Le CIGEM, ça a été un fiasco total. Ils ont financé le CIGEM à des centaines de millions de francs CFA. Et l'argent est réparti.
Le projet n'a pas
est réparti plutôt chez les fameux consultants qui sont venus travailler au CIGEM. Donc vraiment, je crois que c'est vraiment...
Merci, monsieur. 3 ans déjà qu'ils ont été assassinés. Ghislaine Dupont et Claude Verlon, c'était le 2 novembre à Kidal. Certains médias français s'inquiètent de la lenteur de l'enquête 3 ans après. Ghislaine Dupont et Claude Verlon sont morts depuis le 2 novembre à Kidal. La société des journalistes de RFI estime que tout n'est pas mis en œuvre pour faire éclater la vérité sur cette affaire, Ramata Diaouré.
Ben, ils ont raison. Quand on voit comment les choses se sont passées, quand on voit comment ça traîne, quand on voit qui est en charge de l'enquête, quand on voit que le juge français qui a été commis pour ça n'a pas pu venir au Mali encore rencontrer son homologue malien, quand on voit que, si vous lisez la littérature politique française, il y a 2 grands journalistes du Monde qui ont fait il n'y a pas longtemps un livre d'entretien avec François Hollande, dans lequel une phrase sibylline de François Hollande laisse penser qu'au moment où Ghislaine Dupont et Claude Verlon étaient à Kidal, se déroulaient en même temps des négociations avec les gens qui avaient kidnappé Lazarevitch. Je vous signale aussi au passage d'ailleurs que pour quiconque a suivi cette affaire, Lazarevitch lui-même était quelqu'un dont on ne sait pas exactement quel était son rôle. Est-ce qu'il était réellement un prospecteur minier? Est-ce qu'il ne l'était pas? C'est des choses qui sont en question. Je sais que vous vous rappelez aussi que c'est une zone où nous sommes les spécialistes des négociations pour la libération d'otages. Tombouctou, Kidal, c'est vraiment la zone où on enlève ailleurs et on vient libérer chez nous. On enlève au Niger, on vient libérer chez nous. Parce qu'en fait, les missiles dominicides qui font les go-between entre tout le monde qui négocient, parce qu'ils ont leur part bien sûr du gâteau, sont par là. Alors, est-ce qu'ils sont tombés sur quelque chose comme information qui était brûlant? Est-ce qu'ils ont vu quelque chose qu'ils n'auraient pas dû voir? Est-ce qu'ils ont rencontré un acteur qui voulait sa part du gâteau?
Justement, les circonstances de l'assassinat restent encore
floues. Restent encore non élucidées. Malheureusement, pourtant, chez nous, on devrait pouvoir le faire. Quand des gens nous disent qu'ils vont assurer la sécurité de leur propre ville à Kidal et qu'ils ne sont pas capables de faire cette enquête-là alors qu'ils ont été tués devant la porte de quand même quelqu'un qui est un grand notable de la ville, je trouve que ça fait énormément de zones d'ombre et je pense que quelque part, il y a des gens qui ne veulent pas que cette affaire soit tirée au clair.
Boubacar Yalkouyé, Paul Ben, juste deux secondes avant de vous donner la parole. Boubacar Yalkouyé, il y a le juge, justement, il y a eu une déclassification de certaines des informations il y a environ un an, mais ça n'a toujours pas avancé.
Oui, effectivement. Moi, je pense que quelque part, il y a quand même une volonté manifeste de faire en sorte que la vérité ne soit pas quand même... la vérité ne s'éclate pas par rapport à cette tragédie-là. Et d'ailleurs, par rapport à ça, on peut également quand même pointer du doigt aussi la France, puisque nous estimons que vraiment si l'État vraiment s'investit à fond dans cette histoire, au moins on devait quand même avoir un éclaircissement par rapport à ça. Et également ceux qui à l'époque avaient quand même la gestion de la ville, ils ont, ceux-ci étaient avec eux à un moment donné. Ils les ont rencontrés et juste peu après, il y a eu quand même cette histoire-là. Et aussi également à leur niveau, si vraiment il y avait cette volonté manifeste de faire éclater la vérité, maintenant ça allait trouver quand même qu'on a au moins c'est une piste par rapport
on
à ça.
Plus, voilà, d'accord. Paul Ben, est-ce que de quels moyens de pression dispose-t-on aujourd'hui justement sur la justice française et malienne pour faire avancer les choses, ou même sur les groupes armés aussi pour faire avancer les choses?
Quand vous avez affaire à la DGSE, vous ne pouvez que vous plier. Moi, je suis parti 4 mois après l'assassinat de Claude et de Ghislaine. Je suis parti à Kidal. Le jour de leur assassinat, j'étais à Gao en partance pour Kidal. Mais j'ai renoncé à y partir parce que la situation ne s'y prêtait pas. Et 4 mois après, je suis parti à Kidal. Et les témoignages que j'ai eus avec les gens qui vivaient avec eux, parce que tout le monde vivait à la mairie en ce moment. Moi-même, je suis parti, j'ai résidé à la mairie pendant tout ce temps. Les informations font froid, c'est-à-dire c'est glaçant.
Qu'est-ce qu'on dit, justement?
On dit, les témoignages concordent, et c'était un coup monté de la DGSE. Ça, je vous l'ai dit.
Donc, vous accusez directement les services secrets français.
J'accuse les services secrets français parce
quels seraient les motifs?
48 heures avant, j'ai rencontré Claude, qui était en partance pour Kidal, et qui n'avait pas eu l'aval de Serval, en ce moment, pour aller à Kidal. Serval n'a pas voulu les aider. Mais arrivé à Kidal, c'est ce même Serval, à travers la DGSE, qui leur ont proposé leur aide. Chauffeur, traducteur, sécurité. Et
d'accord, mais qu'est-ce qui se serait passé?
Ils m'ont expliqué très rapidement le sujet pour lequel ils devaient partir à Kidal. Le sujet était très très sensible.
C'était quoi?
Quelles sont les relations que la France maintient avec le MNLA en son temps, et qui fait à ce que Kidal reste un point noir dans tout ce processus de reconquête, de réconciliation et tout. C'était l'objet de leur sujet. Et les gens qu'ils devaient rencontrer, ils me l'ont dit, et moi je leur ai dit, faites très attention, parce que c'est très sensible. Et l'histoire m'a donné raison.
Merci Paul Ben. Une vingtaine de groupes de médias appellent les autorités françaises et maliennes à se mobiliser pour permettre à la justice de passer. Est-ce que vous pensez, Hamidou Touré de Mali Média, que cet appel sera entendu?
Bon, sera entendu ou pas, moi je pense que c'est un devoir. Aujourd'hui, nous tous, nous devons être solidaires à la recherche de la vérité, pas seulement sur cette question, même sur la question de notre confrère Brema et beaucoup d'autres sujets quand même en rapport avec les journalistes ou bien les hommes de presse. Je pense que mieux que jamais, c'est le bon moment pour se tenir la main et pour se lever pour enfin nous faire entendre.
Merci Ramata.
Si on a déclassifié certaines informations, les bandes, ils ont fait des interviews, les bandes sonores que RFI doit avoir jusqu'à présent. Ces bandes justement sont avec le gouvernement français. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas entendre ces bandes? Pourquoi? Si on déclassifie, il faut qu'on déclassifie les bandes. Il y a beaucoup de choses qu'on va comprendre quand on va écouter les bandes. Ça, je vous le dis.
Merci. Ramata Diaoué, de quels moyens de pression est-ce qu'on dispose aujourd'hui pour pouvoir faire avancer l'enquête?
Il y a déjà des moyens de pression dont dispose la presse. Parce que je pense qu'en dehors de ça, il n'y aura pas grand-chose. Si c'est un débat au niveau des États, ce n'est pas pour rien que la société des journalistes a sorti la chose. Au Mali, ici, les gens sont mobilisés aussi en son temps. Parce qu'il est clair que quand c'est au niveau de l'État ou au niveau des polices secrètes ou des services secrets des États, c'est très difficile que les choses sortent. Et on dit que des choses ont été déclassifiées. Elles ont été déclassifiées au Mali. Je ne pense pas qu'elles aient été déclassifiées en France.
Elles ont été déclassifiées en France.
En France. Mais si elles ont été déclassifiées en France, si nous aussi on a certaines informations, on pourrait le voir. Nos confrères de la Société des journalistes aussi se plaignent aussi d'une chose. Nous avons maintenant au Mali, depuis d'ailleurs 2013, avant même le décès, l'assassinat de nos deux confrères, un pôle de magistrats spécialisés dans l'antiterrorisme.
Merci.
Mais on ne les a pas, mis dans ça.
Le temps
nous oblige. Même ne fait pas partie de
Merci, monsieur. Merci, madame. Merci, monsieur. Le temps nous oblige donc à nous arrêter là. C'était le Forum de la presse qui a été réalisé par Ibrahim Arandialo, mis en onde par Gagny Kanté. Mamadou Ouattara était à la régie vidéo. Merci. À la semaine prochaine pour une autre émission.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edewani Wamakaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry. Halo Demande.
Chenne Berry. Sigi Kafoba.